Bilan Stock Express.
Chronique bande dessinée.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de ce Bulle en Stock Express. Oui, mais non, ça va être de plus en plus Bulle en Stock Express, je crois, parce que c'est une émission raccourcie, ça me permet d'en faire peut-être un peu plus dans les semaines. Donc du coup, on va faire à chaque fois un thème, donc BD, manga, jeux de société. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour, du coup, un petit peu moins d'une heure sans doute, pour présenter là, cette fois-ci, des nouveautés BD et exclusivement BD. Donc voilà, c'est des BD qui sont déjà un petit peu, qui sont sortis il y a quelques temps. Oui, au fait, on entame la 20e saison de Bulle en Stock quand même. Donc bravo à Bulle en Stock. Je sais pas moi qui ai commencé Bulle en Stock, mais Eric Bonny, que je salue, s'il écoute, s'il passe par là. Voilà, moi j'ai continué avec lui et ensuite il m'a donné le bébé. Et puis du coup, voilà, Bulle en Stock à 20 ans cette année. J'espère que nous allons pouvoir nous retrouver régulièrement lors des émissions que je vais faire, des fameux podcasts. Maintenant, ça s'appelle comme ça de plus en plus. On n'est plus sur une émission de radio, on est plus sur du podcast. Allez, on commence. Donc, c'est Chronique BD de Bulle en Stock Express avec Parker. Parker, c'est la proie, c'est le sous-titre de l'album. C'est de Doug Headline au scénario, de Kieran au dessin, et c'est aux éditions Air Noir. Alors Air Noir, c'est une collection de polar qu'a sorti donc Air Libre. Air Libre, vous savez, qui est une collection de romans graphiques de chez Dupuis, qui est vraiment de très 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 bonne qualité. Ça fait longtemps que ça existe. Et là, Air Noir vous propose donc des nouveaux polars, des polars qui arrivent, et Parker est le nouveau. Parker est l'adaptation du héros éponyme de Richard Stark. Donc c'est un grand grand du polar que Doug Headline donc du coup a adapté en bande dessinée. Parker est un truand. Voilà, il fait des casses, il essaye de récupérer le maximum d'argent illégalement, et il a toujours des coéquipiers avec lui, et par contre il a beaucoup beaucoup d'intégrité, c'est-à-dire qu'il est toujours très droit dans ses relations, il est très froid même par moments, mais en tout cas à chaque fois c'est pas lui qui va trahir les gens, c'est pas lui qui va se mettre à dos les autres. Il est dans son métier, il est parfait, il est recommandable dans son métier. Bon, c'est un métier truand, mais en tout cas, il est quand même recommandable. Au début de ce polar, il y a une casse de banque qui sont en train de fomenter. Donc, ils arrivent à la banque avec deux de ses coéquipiers qu'il connaît très bien et avec qui, du coup, il va faire équipe. Et un nouveau qui est un chauffeur, le chauffeur qui a recommandé un de ses coéquipiers pourtant, mais bon, il n'y croit pas trop, il ne sait pas trop, mais apparemment il a quand même des bonnes références, en particulier il a bossé avec un ancien déjà très connu, un petit peu concurrent de Parker, mais de loin, et donc du coup il va accepter donc le deal. Le cas se passe normalement donc pour les voleurs, mais le gros problème qui va subvenir, c'est lors du partage du butin, où là, il va y avoir quelqu'un qui va retourner sa veste et qui va essayer de buter tous les autres. Bon, je ne vous dis pas trop qui c'est, même si je pense vous l'avez un tout petit peu deviné. Et puis Parker, du coup, va réussir à s'échapper et puis, du coup, il va essayer de venger et de récupérer l'argent qu'on lui a volé. Voilà l'album. C'est paraît simple au départ, et puis en fin de compte, on va être dans les méandres de ce voyou, mais comme je vous disais, assez intègre. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que c'est quand même un truand, un méchant, mais qu'on a envie d'apprécier parce que du coup, on sait qu'on lui a fait une crasse, on sait qu'on s'est retourné contre lui. Et on a envie que plutôt que ça se déroule bien pour lui, on a envie que ça réussisse pour lui. Et c'est tout le côté très 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 ambivalent de ce système, de cette narration, parce que du coup, on prend vraiment avec empathie par cœur. Alors le dessin noir et blanc et avec du gris, donc c'est en bichromie de Kieran, est absolument parfait pour ce style de BD. On est vraiment dans un polar noir, on le ressent. Ça se passe dans les années 60-70, on ressent aussi même l'époque. Et donc du coup, on a vraiment un dessin qui colle parfaitement avec le récit. On est dans plein d'embrouilles, donc on va avancer facilement dans la lecture. On va avoir toute une partie où on va être dans les pensées de Parker. Le reste, ça va être des discussions simples à lire. Et donc du coup, on est pris complètement dans cette BD. Vraiment, c'est absolument génial. Donc c'est une grosse recommandation. J'adore moi les polars et c'est vrai que cette R noire, donc ce nouveau polar que l'on peut découvrir donc chez R Libre, c'est vraiment une grosse grosse réussite. Ça s'appelle Parker, c'est aux éditions R Noire et je vous le conseille grandement. Un autre album assez mystérieux, s'appelle Exangue, le tome 1 sur 2 est sorti. Il s'appelle La Marque, c'est de Corbeyran au scénario, de Alex Chibao au dessin et c'est chez Soleil Fantastique, la collection fantastique de chez Soleil. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Tania, enfin une jeune femme, une femme qui s'appelle Tania, qui est représentante en médicaments. En tout cas, elle fait les routes, elle trace les routes, elle est toute seule apparemment. Elle a sa maman quand même qui est dans une maison de retraite, mais qui a perdu la tête. Donc elle n'a plus vraiment d'interaction avec elle. En tout cas, elle ne se rappelle plus, mais elle est contente de la voir, mais elle ne se rappelle plus qui c'est exactement. Donc Tania est plutôt solitaire et un jour, une nuit, elle fait donc la route pour aller vers une nouvelle mission, vers une nouvelle ville. Et là, elle croise la route d'un autostoppeur qui s'appelle Marco et du coup, elle va le prendre en stop. Au départ, la relation est un tout petit peu plus difficile. Et puis, en fin de compte, Marco va accepter de dîner avec elle. Et ils vont même finir la nuit au lit. À part que, une petite chose qu'elle ne sait pas, c'est que Marco, lui, est tueur à gages et qu'il est chargé de la tuer. Alors, pourquoi est-elle chargée de la tuer ? Pourquoi est-il, pardon, chargé de la tuer ? Et puis elle, surtout, elle a beaucoup de choses, des réminiscences, des rêves qui lui paraissent un peu bizarres. Elle se voit souvent dans l'époque médiévale en train d'être poursuivie. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Bah, vous allez le découvrir avec Exangue. On a le fin mot de qui sont les différents personnages, même si ça spoil un petit peu déjà rien qu'avec la couverture. On sent que du coup, il y a pas mal de fantastique, le côté fantastique, on sait déjà de quoi ça vient. Mais une histoire d'amour peut-être aussi poindre. Alors que le tueur à gages doit tuer sa victime, ben la victime et le tueur à gages vont peut-être se rapprocher. Et ce qui va devenir donc assez complexe pour ce tueur à gages qui a une mission, évidemment. Un scénario assez simple, mais qui fonctionne plutôt pas mal parce que du coup, justement, on part sur le principe de la victime et qu'on n'est pas que sur le tueur. Et puis, ben, la victime, on va ressentir un petit peu ce qu'elle ressent, elle, évidemment. Et le dessin est vraiment très beau, un dessin d'un auteur brésilien qui apparemment est plutôt spécialisé dans le comics. Donc du coup, on a vraiment quelque chose de très, très, réaliste. Et ça fonctionne avec un côté assez sombre aussi, évidemment. Ça se passe pas mal de nuit en plus dans ce premier album. Exangue, en tout cas, est un bon premier album qui se lit sans déplaisir et vraiment hâte de lire la suite de ce diptyque donc, qui s'annonce chez Soleil. La boucle, c'est un album de Kimo Lust. C'est dans un roman graphique exactement qui est paru aux éditions Glénat et qui est assez dur, vraiment très dur même, malgré le fait que le dessin soit pas cartoon parce que du coup assez rond, assez mignon, assez fin en même temps, c'est un peu Linklair, mais Linklair pas très fini, un petit peu sombre quand même, on le ressent. On est dans les années 90 en Finlande et on va suivre Nipsu. Nipsu, c'est une jeune fille. Son père est parti à l'étranger et sa mère, elle donc l'élève seule. Enfin, l'élève entre guillemets, parce que du coup, la plupart du temps, Nipsu retrouve sa mère allongée sur le canapé, endormie, mais à cause du trop gros, la trop grosse dose d'alcool qu'elle a ingurgitée. Et voilà, on va suivre la petite fille, Nipsu, qui va être un petit peu sans défense, qui va être un petit peu livrée à elle-même et qui va ne pas pouvoir supporter, être supportée par sa mère. Et au contraire, même, va devenir petit à petit le soutien maximum de sa mère. Et en même temps, il y a toujours ce lien qui les unit. Mais on va la voir grandir. Et c'est de plus en plus dur. Parce que elle, Nipsu, ne ressent pas vraiment l'empathie vers les autres, envers les autres, etc. Elle va se renfermer sur elle-même. Elle va être victime de harcèlement scolaire. Elle va aussi se scarifier et ainsi de suite. Donc on voit tout le mal-être et la difficulté d'être d'une jeune fille dans les années 90 en Finlande et petit à petit son évolution vers un drame ou pas, à vous de le découvrir. Je me suis dit au départ, tiens, je ne vais peut-être pas accrocher. J'avais l'impression que je n'allais pas accrocher à cet album parce que je me dis ça a l'air trop naïf un petit peu. Je sais pas, j'avais un côté a priori négatif. Et en fin de compte, quand j'ai ressenti toutes les émotions que vivait Nipsu dans cet album, j'ai pris une claque moins graphique que émotionnelle. Il y a vraiment les émotions qui passent énormément dans ce récit. C'est là-dessus que moi j'axerai plutôt la chronique, c'est-à-dire que le ressenti se fait vraiment par le récit, moins par le dessin, parce que du coup on n'est pas sur des dessins trop choquants et ainsi de suite, même si voilà, on est sur des dessins assez simples, d'une femme souvent allongée sur son canapé, d'une petite fille qui est dans sa chambre, mais c'est vraiment les émotions, les émotions que subit cette jeune fille, qui sont vraiment les plus importantes. En tout cas, c'est très bien ressenti, très très bien relaté. En tout cas, ça s'appelle La Boucle. C'est un très bel album du côté, comme je vous ai dit, scénaristique, je trouve, très émotionnel. Donc, aux éditions Glénat. Juste pour ceux qui sont assez fans de ce type d'album. Là, on change complètement de style avec L'art érotique de Léon Frollo. Le volume 2 est sorti aux éditions Glénat. Léon Frollo est un grand de la littérature du 9e art et il a tout un côté. Bon, il a fait beaucoup d'érotisme et voire pornographique. Et donc, du coup, là, on n'a que des illustrations, souvent à l'aquarelle, souvent en crayon de couleur. C'est absolument magnifique. Ces femmes sont sublimes. Vraiment, les compositions qu'il fait sont vraiment absolument magnifiques. Et c'est donc dans cette collection très, 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 très importante, si vous aimez évidemment ce style de BD, dans les grands maîtres de l'érotisme, donc que sort cette collection. Donc du coup, chez Glénat, L'art érotique de Léon Frollo, c'est déjà le deuxième tome. Et puis vous en avez d'autres aussi qui sortent et qui sortiront encore, parce qu'évidemment, la bande dessinée et l'érotisme et le 9e art font toujours très bon ménage. Il y a toujours un bon public pour cela. Évidemment, c'est déconseillé, voire interdit, au moins de 18 ans. Mais bon, pour vous dire que L'art érotique de Léon Frollo était sorti aux éditions Glénat. Je vous ai parlé de polar tout à l'heure, ben là un autre polar que je vous présente, que j'ai adoré, vraiment adoré. C'est Le Serpent Majuscule, c'est tiré d'un scénario de Pierre Lemaître. Et c'est de Dominique Monferri au dessin et aux couleurs. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Serpent Majuscule va reprendre aussi l'histoire d'une tueuse à gages, là cette fois-ci, elle s'appelle Mathilde. La particularité de cette tueuse, c'est qu'elle a plus de 70 ans. Donc du coup, elle est vraiment presque en fin de carrière, mais en tout cas, elle est toujours bien dynamique pour pouvoir descendre ce dont elle a besoin. Elle fait partie de la résistance, c'est donc une sorte de groupuscule de tueurs. Et puis, un jour, elle devient un petit peu imprévisible, elle a des accès de violence, la résistance décide de lui mettre un contrat sur la tête. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce qu'on va pouvoir lui faire à l'envers, elle, cette tueuse à gages hors pair, mais en même temps qui ressemble plus à une mamie lambda qu'une vraie tueuse à gages. Donc Le Serpent Majuscule est vraiment un excellent album, avec le dessin de Dominique Monferri, toujours très, très comment, semi-réaliste, absolument magnifique. Vraiment, c'est un pur bonheur de lecture. Moi, j'adore son style graphique, je vous ai déjà présenté plusieurs fois ses albums. Et là, encore une fois, le dessin fait mouche complètement avec le style graphique, avec le style d'univers, car il apporte toute l'empathie que l'on va avoir pour cette femme. Une vieille mamie, on va quand même pas lui faire du mal. Et en même temps, il y a ce côté dur derrière qui, du coup, est un polar humoristique, entre guillemets, parce qu'il y a un petit peu d'humour quand même. Et puis, voilà, les situations n'est pas tout à fait banales non plus. Donc, Pierre Lemaître nous entraîne dans des facéties assez très, très savoureuses, comme d'habitude, avec une superbe écriture. Et puis, Dominique Monferri, avec son dessin, qui, du coup, ne serait un dessin qui n'irait pas à la base avec du polar pur. Mais là, on en est quand même vraiment régalé, là c'est vraiment un grand grand plaisir. Même la couverture, elle est impressionnante parce qu'on ne sait absolument pas de quoi ça parle, on voit juste le chien un petit peu désabusé, mais qui en même temps est toujours le fidèle compagnon de cette tueuse, de Mathilde, cette septuagénaire avec qui il faut pas vraiment avoir affaire. Le Serpent Majuscule, un petit chef-d'œuvre de chez Rue de Sèvres, à découvrir de toute urgence. De l'aventure avec Le Dernier Vol de Dan Cooper. C'est Jean-Luc Cornette au scénario, Renaud Garetta au dessin, et c'est aux éditions Glénat. Là, on part sur une histoire vraie, en tout cas un fait réel, où Jean-Luc Cornette a, lui, essayé d'agrémenter des choses, parce qu'on va suivre donc ce fameux Dan Cooper. On est en 71, en novembre 71, la veille de Thanksgiving. Il voyage sous le nom de Dan Cooper. Il monte à bord d'un Boeing. Et à un moment donné, il va demander à faire, enfin, il va dire qu'il va faire exploser l'avion si sa demande n'est pas exaucée. 200 000 dollars en petite coupure et 4 parachutes. Donc, pour ne pas risquer la vie des passagers, le FBI préfère s'exécuter. L'avion donc descend, on lui donne ce qu'il veut et l'avion repart donc en direction du Mexique. Mais là, pendant la nuit, le pirate de l'air saute du Boeing, alors qu'il fait nuit et qu'il y a une tempête qui, en plus, est en train de s'abattre. Et donc, ses chances de survie sont quasi nulles. Et 50 ans plus tard, le FBI ne sait toujours pas où est cet homme, ne sait toujours pas qui est cet homme, ne sait toujours pas où sont passés ces 200 000 dollars. Alors du coup, Jean-Luc Cornette, lui, nous raconte un petit peu ce qui s'est passé après, même si, bah, du coup, ce ne sont que des hypothèses, parce qu'il ne sait absolument pas ce qui a pu se passer, parce que personne n'a vraiment les informations, à moins que lui les ait eues vraiment. Mais on va suivre, du coup, Dan Cooper. On voit le début du vol, etc., la menace qu'il fait, le piratage de l'avion, entre guillemets. Mais ensuite, après qu'il ait sauté, qu'est-ce qui lui arrive exactement? Bah, tout ça, c'est raconté dans cet album. Alors, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, peut-être qu'il est mort et qu'on n'a jamais retrouvé son corps et qu'on ne sait jamais où sont tombés les 200 000 dollars. En tout cas, Le Dernier Vol de Dan Cooper nous permet de vivre une aventure très intéressante. Vraiment, bah là, c'est pareil, on est encore sur un personnage qui devient le héros de la bande dessinée et en même temps qui est le pire des salauds. Donc, du coup, on est quand même sur encore un voleur qui devient le héros de la bande dessinée. Et Jean-Luc Cornette du coup nous raconte ça avec vraiment beaucoup beaucoup de plaisir. Et puis Renaud Garita, lui avec son style réaliste est parfait évidemment dans ce style. En plus les avions etc, il s'y connaît bien, donc du coup tout fonctionne dans cette lecture. Je pensais que c'était quelque chose autour justement d'Anne Cooper étant un héros du 9e art de l'aviation. Je pensais que ça allait être dans ce style-là et du coup j'étais très surpris de voir une sorte de thriller polar tiré de faits réels. Et du coup c'est un très bon one-shot que l'on peut lire avec vraiment beaucoup de plaisir. Le dernier vol de Dan Cooper, donc aux éditions Glénat. Et puis on va continuer avec d'autres histoires vraies, toujours chez Glénat, Monaco, l'épopée des Grimaldi. C'est de Arnaud Delalande au scénario, Cédric Fernandez au dessin, conseiller historique Stéphane Bern et conseiller scientifique Yvon Bertorello. Donc je vous ai dit que c'était aux éditions Glénat. Alors bon là, évidemment, c'est pour la rencontre mythique entre Grace Kelly à l'occasion du 8e édition du Festival de Cannes et c'est Régnier de Monaco, et donc évidemment le prince Régnier III qui lui l'héritier de Monaco va tomber amoureux, et ça va être réciproque, de Grace Kelly, et voilà comment cette épopée des Grimaldi est entrée dans l'ère donc monégasque. C'est toute cette histoire que l'on voit dans cet album. Simple, alors il faut aimer, hein. Moi ça m'intéressait pas du tout comme style, enfin le style est sympa, c'est simple et lisible. Maintenant, ça c'est pas un album que je relirai tout le temps, c'est un album que j'ai lu. Maintenant, le propos m'intéressait peu, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas obligatoirement été le lecteur le plus assidu et peut-être pas le public non plus cible. Mais il est vrai que si vous voulez découvrir un petit peu les coulisses de comment s'est passée la rencontre entre Grace Kelly et Régnier et ensuite leur histoire d'amour, bah vous pouvez lire Monaco, l'épopée des Grimaldi. C'est aux éditions Glénat. Et puis toujours dans la collection, toujours chez Glénat, tiens, c'est dans la collection les plus grandes histoires du Far West. Là, on est sur Hockey Coral. Vous savez, à chaque fois, on va parler soit d'un personnage dans cette collection-là, soit d'un fait. Et là, c'est Hockey Coral, donc une grande bataille. C'est scénarisé par Jean-David Morvan, dessiné par Ray Macutet, Citron et Thomas Cherkezian. C'est tout donc aux éditions Glénat, dans la collection Les Grandes Histoires du Far West. On est en 1881 dans l'Arizona. On est en pleine conquête de l'Ouest, la société en pleine mutation. Il y a beaucoup de violence qui se libère. Et puis chacun essaye de récupérer le maximum de pouvoir et d'argent et ainsi de suite. Et là, du coup, on va être à Tombstone. Tombstone, c'est une ville où vont régner les frères Earp. Alors, qui ont un passé plutôt sulfureux, mais qui se disent, voilà, un peu défenseurs de la loi. Et donc, on va retrouver les frères Wyatt, Earp, Virgil et Morgan, accompagnés de leur ami John Doc Holliday, qu'on connaît bien dans beaucoup de films et tout ça, on les voit, évidemment, qui vont essayer d'interpeller pour un gang, eux, de malfrats vraiment purs, le clan Clanton-McLaurie. Ce sont des cow-boys qui ont fait pas mal d'assassinats, des lynchages et beaucoup de vols. Donc ils vont à Hockey Coral, un endroit où ils veulent les interpeller pour port d'armes illégales. Mais évidemment, les armes sont dégainées assez rapidement et s'en vient la plus grande fusillade qui a pu exister de l'ère du Far West. Et donc c'est raconté et remis en dessin par Jean-David Morvan et son équipe de dessinateurs, donc Ray Macutet, Citron et Thomas Cherkezian. Donc, si vous aimez l'histoire, si vous aimez la conquête de l'Ouest, si vous aimez les cow-boys, etc., c'est un album qui va vous plaire, parce que le dessin réaliste est vraiment parfait. L'ambiance est bien ressentie, on ressent bien tout ce qui a pu se passer. Et puis, ben voilà, les personnages historiques et emblématiques que l'on connaît déjà par rapport à plusieurs films, dont un qui s'appelle Tombstone par exemple. Tout ça, c'est vraiment des albums, c'est connu dans l'histoire du Far West et c'est donc mis en album par ce groupe d'artistes, donc OK Choral aux éditions Glénat. Puis on va partir toujours dans l'histoire, mais dans une autre histoire. Histoire de la comédie française. Là, on change complètement de sujet. On n'est plus du tout au Far West, mais la comédie française, avec le premier tome qui s'appelle « C'est la faute à Molière ». C'est de Michael Le Galli au scénario, Virginie Augustin au dessin, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. La comédie française, c'est le haut lieu du théâtre, évidemment français et parisien, qui maintenant a fêté ses 400 ans depuis 2022. Et du coup, c'est indépendant, soumis à l'autorité, et puis il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et voilà les deux auteurs plutôt qui racontent à quatre mains, parce que le scénario est... donc aussi par de Virginie Augustin avec Michael Le Galli en collaboration étroite. Et du coup, les dessins de Virginie Augustin, toujours très souples, très agréables à voir dans ce style un petit peu humoristique de ses dessins, où elle a pu être plus grave par moments. Et là, elle est vraiment plus dans l'humour. On retrouve donc tous les personnages qui ont pu faire l'histoire de cette grande maison de la culture française. On y voit au début d'abord les différentes troupes qui commencent à se battre pour un petit peu y être. Ce sont les nobles et les princes qui à chaque fois ont chacun leur troupe et qui essayent de mettre en avant leur groupe d'artistes et de théâtreux, dont un qui s'appelle Molière, Jean-Baptiste Poquelin, et Louis XIV, bien après la mort de Jean-Baptiste Poquelin, même 7 ans après, va mettre fin enfin aux rivalités et va placer donc la comédie française sous son patronage en fondant le théâtre français le 21 octobre 1680. Évidemment, ça ne va pas s'arranger obligatoirement, c'est pas parce qu'on dit voilà, c'est comme ça maintenant que tout va être apaisé. Enfin, tout ça, c'est expliqué dans ce très, très, très bel album. Vraiment absolument magnifique, d'abord graphiquement, parce que, comme je vous ai dit, c'est teinté d'humour, il y en a un petit peu partout, mais en même temps, les couleurs directes sont magnifiques, les planches sont très, très belles, même si ce n'est pas la recherche, et vraiment, on est plus dans le côté un peu documentaire, mais superbement bien fait. Des fois, c'est un petit peu plombant d'avoir un documentaire avec un petit dessin, avec beaucoup de texte. Là, on est vraiment dans quelque chose de vivant, très, très bien mis en scène, très, très bien mis, je dis en scène comme si c'était une pièce de théâtre, justement, mais très, très bien développé et superbement bien retracé. Et puis, c'est très intéressant de voir tous les tenants, les aboutissants, les personnages qui ont pu se croiser, se battre, essayer de convoiter un petit peu l'intérêt qu'avait le public pour les troupes de théâtre. Tout ça, c'est d'un superbe album que vous allez pouvoir donc découvrir chez Rue de Sèvres. Normalement, il devrait y avoir une suite, mais vraiment, c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock, une histoire de la comédie française. C'est la faute à Molière. C'est vraiment une tuerie, dirons-nous. C'est un spectacle à ne pas manquer. Une histoire de la comédie française aux éditions Rue de Sèvres, c'est une très très bonne adresse, cette petite pièce de théâtre que nous proposent ces deux auteurs. Le deuxième tome de La sémantique, c'est élastique, est sorti aussi. C'est par James, c'est le tome 2 du coup de cette série où James, dans la collection Patakès qu'il dirige en plus de chez Delcourt, va à chaque fois nous donner l'étymologie et un petit peu les différents sens que peuvent avoir les mots. Parce qu'évidemment, les mots peuvent... Ils jouent beaucoup avec les mots, ils jouent beaucoup avec les sens. Et du coup, il va y avoir plusieurs sens à chaque fois. Il va y avoir une mise en scène qui va nous expliquer les différentes acceptions qu'il peut y avoir pour un mot et surtout pourquoi des fois on se trompe, quelles vont être les différences qu'il faut faire et surtout comment ne pas faire les erreurs que l'on peut avoir. Ça paraît un petit peu rébarbatif au départ et en fin de compte, comme James met toujours son humour très bien vu et surtout par petite dose là cette fois-ci, c'est pas trop lourd et mais il y a des fois un peu d'absurde aussi comme il aime le faire la plupart du temps. Bah du coup, on a une lecture assez agréable même si comme c'est par petits chapitres, bah on peut-être ne pas tout lire d'un coup, ça peut devenir indigeste. Mais en même temps, bah, prendre un petit peu de temps en temps, c'est toujours très agréable. Moi, en tout cas, j'ai lu d'un coup parce que j'aime beaucoup tout ce qui est jeu de mots, tout ce qui est travail autour de justement la langue et j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, je sais que certains pourraient peut-être être un petit peu rebutés par l'idée, mais lisez juste les premières petites gags en fin de compte. Ce sont des gags sans être des gags en fin de compte, parce que c'est vraiment ce qui est dit est vrai. Mais évidemment, il y a un teinté d'humour derrière parce que du coup, le personnage qui va nous présenter ça et va nous dire ce qui va pas, va évidemment nous être très humoristique et va nous raconter ça de façon très très drôle. La sémantique, c'est élastique. C'est donc aux éditions Delcourt. Deux albums sur le même thème, mais qui sont traités de deux façons complètement différentes. Une réédition avec quelque chose, avec des rajouts dans cet album. Il était une fois l'escalade, c'est une nouvelle édition augmentée. Voilà, j'ai cherché le mot. C'est de Catherine Destivelle et David Chambre et Laurent Bideau. Catherine Destivelle et David Chambre au scénario et Laurent Bideau au dessin. Et là, ça va être vraiment ça va être l'histoire, vraiment. Je vous ai pas dit que c'était aux éditions des Arènes. Et en collaboration avec les éditions du Mont Blanc. Donc, ça va vraiment être l'histoire pure de l'escalade. Mais on est davantage sur l'escalade de extérieur. Parce que du coup, on est vraiment sur les records, sur les parois qui ont été franchis, comment on a pu faire évoluer le matériel et ainsi de suite. Donc, c'est une discipline qui a de plus en plus d'adhérents, de personnes qui veulent grimper. Et du coup, les JO qui ont vraiment donné un essor encore plus grand à l'escalade. Et donc, tout ça, c'est donc, on va suivre les grands premiers de cordée, dirons-nous, qui ont pu inventer un petit peu ce sport et puis suivre après l'évolution technique et donc sportive de ce sport. En plus, il y a une trentaine de QR codes qui renvoient des vidéos de grimpeurs. Donc du coup, dès qu'on va vous parler de quelqu'un, vous allez pouvoir scanner et voir des vidéos. Donc c'est une petite bible quand on est fan d'escalade ou qu'on veut découvrir l'escalade. Il était une fois l'escalade avec un dessin ce réaliste qui vraiment, voilà, on reconnaît les personnages, quand on les connaît un petit peu, on arrive à voir les... C'est pas dans la caricature, on est vraiment sur quelque chose de réaliste qui donne... Alors moi je suis pas un fan d'escalade, j'aime beaucoup regarder l'escalade sportive, on va dire des JO, etc. En particulier les escalades rapides, là. Mais après... Ça me fascine pas tant que ça, et je suis pas un grimpeur parce que du coup j'aime pas trop ça. Mais en tout cas, moi j'ai quand même pris plaisir à lire ce Il était une fois l'escalade. Et quand je vous disais qu'il y avait un autre album qui ressemblait un petit peu parce que du coup justement c'est dans le même style, ça s'appelle Les Grimpeurs. Les Grimpeurs, c'est le premier tome qui est sorti. Au scénario, il y a David Volpi. Au dessin, Jack Daumont. Et c'est aux éditions Bambou. Là, cette fois-ci, on est plutôt sur de l'humour. Parce que ça va être un gag. C'est des planches avec des gags. Une planche, un gag. Et là, on est plutôt en intérieur. Là, on est vraiment sur des grimpeurs qui, la plupart du temps... Alors, il y a une partie quand même où ils vont à l'extérieur. Mais on est sur des grimpeurs, plutôt dans des salles, et on va avoir tout le vocabulaire quand même qui va nous être expliqué, mais par des gags et par de l'humour évidemment, Et puis, on va avoir les nouvelles chaussures qui vont bien, mais qui sont peut-être un peu trop adhérentes. On va avoir le gars qui se la pète un petit peu en disant « Ouais, super, je suis trop fort. » Et puis, qui, en fin de compte, se retrouve en train de faire juste l'escalade des plus jeunes, des enfants. Et donc, qui, du coup, se la pète pour rien, en fin de compte, parce qu'il n'est pas si fort que ça. Mais enfin, pour une fois, se sent très en forme. Évidemment, quand on fait juste des parois pour les enfants, c'est plus facile. Voilà, donc les grimpeurs avec un style là plutôt semi-réaliste de Jack Daumont. Et par contre, il a pris beaucoup. On voit bien les positions des grimpeurs. On voit qu'il a vraiment travaillé sur ça parce que du coup, il y a des positions qui paraissent être assez réalistes dans cet album. Et puis, on va avoir quand même un petit carnet à la fin avec les meilleurs... avec un petit peu l'histoire quand même de la grimpe, de l'escalade, même si, évidemment, c'est beaucoup moins fait pour ça que l'album précédent. Là, on est vraiment plus sur de l'humour qui fonctionne bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt agréable à lire. Et puis, le dessin est vraiment très bien et très fin et très agréable. Donc, ça s'appelle « Les grimpeurs ». Le tome 1 est sorti aux éditions, je vous ai dit Bambou, voilà, je suis en train de rechercher l'édition. Dans un autre style, Albertine a disparu. C'est de François Vignol et de Vincent Guerrier au scénario, Vincenzo Bizzarri au dessin et c'est aux éditions Glénat. C'est un one-shot dans lequel on va suivre un maire, Gilles Poulain, c'est le maire d'un petit village de Courteville et comme il y a une grosse canicule, à cette époque-là de l'année, il est en train de s'enquérir de la santé de tous les plus fragiles de son village. Pour lui, il se sent obligé d'aller voir, essayer de comprendre si les gens vont bien, essayer de les aider s'ils en ont besoin. C'est en tout cas pour lui son rôle. Surtout qu'il y a le Covid en plus en même temps. C'est donc à l'époque du Covid dans les années 2020. Au début, enfin 2020 pour le premier et puis... Après, ça a continué. Donc, à un moment donné, il est en train de faire tout son recensement. Et là, il se dit, mais il y a Albertine Buisson qui a 99 ans. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Donc, comment se porte cette Albertine Buisson? Donc, il va voir sa belle-mère, sa belle-fille plutôt, qui est la coiffeuse du village. Mais la coiffeuse dit, moi, je ne lui parle plus parce qu'elle a été un petit peu odieuse avec moi. Je ne lui parle plus. Il n'y a que mon mari qui va la voir, donc son fils, le fils d'Albertine. Mais voilà, apparemment, son fils qui, lui, est bien malade du Covid, justement, apparemment, n'irait plus tout à fait la voir. En tout cas, plus personne n'a de nouvelles. Donc voilà le maire qui va aller faire un petit peu son enquête. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour Albertine? Et puis en plus, il y a d'autres choses évidemment dans le village parce qu'il y a des Parisiens qui viennent d'arriver. Évidemment, eux, ils sont au centre mieux parce que du coup, ils font du télétravail, ils sont tranquilles. Mais par contre, c'est vu d'un mauvais œil évidemment par les anciens du village, voire même ceux qui habitent là depuis longtemps sans être obligatoirement très anciens. Et donc, on va suivre ce maire qui va tout faire pour essayer de comprendre ce qu'est devenu Albertine, qu'est-ce qu'il est advenu d'Albertine exactement, et puis savoir si vraiment il lui arrivait malheur ou pas. Vous le saurez, vous, parce qu'on le sait à la fin de cet album, ce qui est arrivé à Albertine qui a disparu au début de l'album. Albertine a disparu aux éditions Glénat. Un dessin simple, mais qui fonctionne bien pour ce style de roman graphique, parce qu'on est plutôt sur un roman graphique, et on est pris vraiment dans cette petite enquête de ruralité, de voisinage, dans une petite chose, ce qui paraît assez anodine au départ, et en fin de compte, qui petit à petit nous prend quand même bien pour essayer d'avancer avec comment il s'appelle le maire déjà, je ne sais même plus, Gilles Poulain. Donc on suit Gilles avec intérêt et on essaye de comprendre petit à petit, et même il y a un petit peu de mystère à un moment donné. Bon, je vous en dis pas trop, parce qu'évidemment, ce serait un petit peu trop spoilé. C'est donc Albertine a disparu aux éditions Glénat. une réédition cette fois-ci, Les Incroyables Aventures de Gribouilly. C'est de Turf au scénario et au dessin. Pas à la couleur, parce que c'est du noir et blanc total. C'est dans la collection Delcourt, dans la collection Hors Collection. Gribouilly, c'était un album complètement original de Turf, le créateur de La Nef des Fous, qui avait fait ça. On avait l'impression un petit peu comme une bouffée d'air frais en dehors de sa Nef des Fous, très colorée, avec beaucoup de dessins en couleur. Enfin, c'est que de la couleur directe, donc évidemment, vraiment pris par le dessin. Et là, il avait trouvé une idée très originale. On est dans une sorte de catalogue donc, de vente par correspondance, et là, un petit Gribouilly a été fait. Ce Gribouilly, qui est une sorte de tache, un petit peu comme si c'était une tache de fumée, un petit peu, va commencer à avoir des pattes, une tête, une queue, et ça devient un petit chien, mais un petit chien avec le corps qui est gribouillé, quoi. Donc ça devient Gribouilly. Et il va commencer à se balader dans ce catalogue de vente par correspondance, et on va découvrir que ce catalogue est dirigé de manière dictatoriale par un diable qui est dans une boîte et qui donc dirige tout le monde. C'est complètement loufoque. Je pense que ça part d'un principe où, justement, Turf avait dû faire un Gribouilly, peut-être au téléphone ou quelque chose comme ça. Il lui avait fait des pattes, des têtes, et il est parti là-dessus. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Il faudrait qu'on lui demande. Mais j'ai trouvé ça, moi, poétique, mignon, super bien réalisé, parce qu'évidemment, Turf, même sans couleur, il est absolument génial dans son style graphique et dans sa façon de mettre en scène tous ses personnages et justement de les inventer aussi, les personnages, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Évidemment, je vous ai dit juste la base de ce qu'étaient les aventures de Gribouilly. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'autres choses qui se passent. Donc, je vous conseille vivement, si vous ne le connaissez pas, alors moi je connaissais Gribouilly et j'avais la première édition. Honnêtement, je préfère la première édition, parce que cette édition un peu plus petite et moins, je trouve la couverture un peu moins intéressante. Maintenant, je pense que, voilà, pour ceux qui n'ont pas connu la première édition, qui est sans doute très difficile à trouver parce que du coup, bah, très rare maintenant, ça n'a pas très bien fonctionné, pas autant que La Nef des Fous en tout cas. Les Incroyables Aventures de Gribouilly, c'est une ressortie qui permet à tout le monde de découvrir cet album et cette narration très originale qu'a eu Turf dans cet album, un petit peu, je pense, comme je vous disais, récréation qu'il avait eue à l'époque. Les Incroyables Aventures de Gribouilly aux éditions Delcourt. Grosse recommandation de Bulle en Stock, parce que moi j'avais adoré et j'adore toujours la première version. Maintenant, comme je vous disais, c'est juste la couverture qui change, donc allez-y. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Comme je vous ai dit, c'était tout en noir et blanc aussi. Donc, n'ayez pas l'impression que je vous ai menti quand vous allez ouvrir et dire « Mais il n'y a pas de couleur alors que c'est Turf !» Mais oui, mais c'est normal. Gribouilly, les aventures, les incroyables aventures de Gribouilly aux éditions Delcourt par Turf. Un très bel album maintenant, comme les autres, hein, mais celui-là, je l'ai trouvé très beau, très poétique et en même temps très, très humain. Le Masque du Renard de Ewen Blin, c'est aux éditions Glénat, c'est un one-shot qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Romain. C'est un lycéen qui vit dans un milieu rural avec sa bande de potes, il est au lycée. Et il est avec Paul, donc une jeune fille, et Gabriel. Ils sont inséparables un petit peu. Et puis, un jour, Paul et Romain vont sortir ensemble. Mais lui, ils ne sont pas obligatoirement à l'aise. Enfin, il y a des choses qui ne vont pas. Surtout que Paul lui a présenté un nouveau... elle n'est pas dans la même classe que lui au départ. Et donc, du coup... elle a un nouvel ami qui vient d'arriver, il s'appelle Kom, il est franco-japonais, et du coup une amitié va se créer aussi entre tous ces personnages, donc Paul, Kom et Romain, et en particulier Kom et Romain vont s'entendre très très bien, parce que Kom va l'initier à l'observation des oiseaux, à la culture japonaise, et puis il va même retrouver un masque de renard dans la chambre de Kom, enfin donc voilà. Et pourquoi le renard ? Justement, depuis qu'il est au lycée, depuis qu'il est dans cette année scolaire, il croise régulièrement, Romain, un renard qui s'enfuit à chaque fois. Il se demande pourquoi, et ça le trouble pas mal. Évidemment, il y a tout ce qui est relationnel avec le folklore japonais où le renard se métamorphose et en particulier peut faire se jouer un petit peu des humains en se métamorphosant, par exemple, en une personne qui va attirer un autre humain un petit peu dans ses griffes. Donc voilà, il y a toute une symbolique du renard, évidemment. Bon, lui, il n'en a pas conscience, mais petit à petit, en croisant Côme et avec sa relation amicale qu'il crée avec lui, ça va évidemment évoluer. Mais justement, déjà dans le trio entre Paul, la demoiselle qui sort avec Romain, mais il l'avait caché à Gabriel, donc Gabriel commence à ne plus accepter lorsque surtout il l'apprend, c'est-à-dire qu'il devient assez nerveux et énervé justement d'avoir été mis un peu de côté, donc il va sortir un petit peu de ce groupe. Et puis Romain, lui, se pose de plus en plus de questions parce que avec Paul, elle qui est très très amoureuse de lui, lui apparemment n'a pas les mêmes ressentis. Les sentiments, en tout cas, ne naissent pas autant que elle pourrait être amoureuse de lui. Donc du coup, il y a toute une ambiguïté dans sa façon de se comporter avec elle, de comment il doit se comporter dans ce couple. Et en plus, la relation avec Côme va de plus en plus se changer peut-être. En tout cas, il est de plus en plus en harmonie avec ce jeune homme. Le masque du renard, vous avez compris, c'est un adolescent qui va donc rechercher un petit peu ses sentiments, qui essaye de trouver un peu le sens de sa vie, de ses sentiments, à travers plusieurs relations amicales au départ, et voire amoureuses aussi. Et c'est très très bien, très très bien rendu par Ewen Blin, avec un dessin très fin, très doux. Et puis toujours ce renard que l'on trouve un petit peu partout dans l'album, sous différentes formes, que ce soit dans la forme du masque, que ce soit dans la forme du renard vraiment, qui essaye de poursuivre Romain, mais qui n'arrive jamais à atteindre. Mais évidemment, toute la symbolique derrière que Ewen Blin nous envoie petit à petit et nous met pas ça par pincette dans son album. C'est un très beau roman graphique, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de tendresse, avec très réel en fin de compte, très réel parce qu'on se sent proche de Romain et on se dit que ça pourrait être un adolescent de tous les jours et peut-être que c'est un petit peu Ewen Blin quand il était adolescent, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est un très très bel album avec en plus un choix graphique assez original où on va avoir peu de couleurs, mais on va avoir des couleurs qui vont ressortir un petit peu comme le roux un petit peu plus... un peu plus clair du renard, du cheval, j'allais dire n'importe quoi, du renard. Mais en tout cas, c'est très très beau, très très bel album, vraiment que j'ai beaucoup apprécié, très tendre, très doux et très très contemporain. Le masque du renard, du coup, chez Glénat, c'est un très très bon one shot que je vous recommande grandement. C'est par Ewen Blin. Le pays de l'eau qui monte, c'est un récit complet de Rodolphe au scénario, Patrice Lesourd au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Jeunesse. On va suivre un petit village, il y en a beaucoup en France, on le ressent comme si c'était un petit village français. Il ne se passe jamais rien vraiment dans ce village, mais un jour, la météo commence à changer. Et la pluie commence à tomber, mais commence à tomber sans discontinuer. Il pleut beaucoup, 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 beaucoup. Et de plus en plus, l'eau va monter dans ce village. Donc ce pays de l'eau qui monte, c'est des inondations qui vont se créer dans le village. Mais évidemment, les gens vont devoir s'aider, s'entraider, alors que justement, peut-être que les relations entre eux ne sont pas obligatoirement au plus beau fixe à la base. Et du coup, il va y avoir petit à petit de l'entraide qui va se mettre en place. En particulier grâce à deux petits jeunes qui sont là dans le village et qui sont un petit peu... c'est un petit peu les fanfarons du village parce que du coup ils font un petit peu l'école buissonnière, ils sont pas très très doués à l'école, mais par contre ils ont des très bonnes relations eux avec tout le monde et c'est eux qui vont à prévenir les différents personnages du danger que peut subir quelqu'un, l'urgence peut-être d'aller sauver un autre, et petit à petit comme ça va se créer tout un relationnel et on va avoir la peur de l'étranger parce que du coup il y a des Anglais je crois qui sont arrivés dans le village. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont pas le droit d'être là et ainsi de suite. Mais dans des moments difficiles, peut-être que l'entraide va pouvoir être importante. C'est un beau petit écrin que ce livre parce que du coup c'est tout plein de bons sentiments même si on sait qu'au début il n'y en a pas trop. Le dessin de Patrice Lesourd est très intéressant parce que du coup, à chaque fois, il utilise un système anthropomorphique pour pouvoir utiliser des personnages. Et donc, ce sont des petits lapins, d'autres personnages, d'autres animaux qui subissent ces inondations, ces dégâts des eaux. Et du coup, ça ne nous dérange pas du tout parce que déjà dans Voyage au centre de la Terre qu'il avait fait très récemment, c'était aussi la même chose. Et pourtant, on arrive à suivre sans problème. Et au contraire, même, et c'est vraiment très, très bien dessiné. Donc moi, j'aime beaucoup ce système anthropomorphique parce que du coup, j'aime bien ça, les petits animaux, etc. Avec Black Sad et ainsi de suite. Évidemment, il y a des grands, grands classiques maintenant de la bande dessinée qui sont faits de cette façon-là. Mais Le Pays de l'eau qui monte, c'est vraiment un très bon album, simple, mais vraiment humain. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Même la couverture est simple. Si vous regardez bien, il y a juste le village. On voit de loin, en fin de compte, on voit peu de détails. Mais on se dit que ça peut être intéressant de voir exactement ce qu'il y a. Le Pays de l'eau qui monte, du coup, est un récit humain, comme je vous disais, malgré le fait que ce soit dessiné avec des animaux. Donc c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, le récit et les sentiments restent proches de l'humanité. C'est ce qu'on recherche dans ces albums. Le Pays de l'eau qui monte de Rodolphe, avec Patrice Lesourd au dessin, c'est aux éditions Delcourt. Marceline, c'est un album donc aux éditions Dupuis de Claude Combaco au scénario et de Lorenza Di Seppio au dessin. Et comme je vous disais, c'est aux éditions Dupuis. Alors, qui est cette petite fille de 13 ans? Elle ne veut pas grandir comme ses copines de collège. Et du coup, elle est en train pourtant de se transformer comme elle doit faire tout enfant de 13 ans. Il y a la puberté qui arrive. Et en fin de compte, elle va se transformer. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a l'impression. Elle va se transformer en chat. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, évidemment. La puberté lui tombe en plein dessus, mais elle comprend pas trop ces changements. Et pour elle, le côté le plus rationnel, vu qu'elle est absolument amoureuse des chats, sa super-héroïne préférée, c'est justement Super... Je sais plus comment elle s'appelle. Super Cat. Je sais plus comment exactement son nom. Voilà, elle suit toutes ses aventures de chat, elle s'habille toujours un petit peu en chat, etc., avec des oreilles. Pour elle, c'est normal. Elle est en train de se transformer en chat et c'est ça, la réalité. Évidemment, petit à petit, on va... c'est plutôt drôle parce que du coup, elle arrive à avoir le même comportement que son chat qui s'appelle Gustave. Elle va avoir des attitudes complètement assez loufoques dans son comportement. Donc du coup, Marceline va essayer de se transformer en chat. Est-ce qu'elle y arrivera? Est-ce que vraiment c'est un récit fantastique où elle se transforme en chat? Ou alors est-ce qu'elle subit la puberté en plein visage? C'est ce que vous saurez en lisant ce petit album très sympathique avec pas mal de rondeur, très, très cartoon dans le style graphique. Et puis des planches à chaque fois, donc du coup avec des gags, mais en même temps une continuité dans la narration. Ce qui fait que c'est très agréable à lire. Et puis Marceline, elle est plutôt sympa. Donc on a envie de connaître un peu plus encore lorsqu'on commence l'album, voir jusqu'à où ça va aller. Marceline aux éditions Dupuis. C'est donc un autre album. Un petit album plutôt jeunesse, mais avec des parties aussi BD, La Balade Magique de Baume Rire. C'est aux éditions Glénat Jeunesse. C'est de Loïc Clément au scénario, Anne Montel au dessin. Et du coup, c'est un format à l'italienne, un peu plus format dessin, enfin, album pour enfants. Et c'est un conte poétique, avec en plus des petites chansons, mais comme on, voilà, qui émaillent un petit peu ce récit. On suit Judith, qui est une petite souris, et son grand-père vient de s'évanouir dans son bol de semoule. Elle veut absolument la sauver. Parce que c'est la petite souris qui va essayer de sauver la grande, et elle va poursuivre donc elle va faire une quête pour aller chercher le guéridou. C'est une plante qui est capable de guérir son grand-père. C'est apparemment insurmontable, mais on lui dit voilà, il y a tel personnage qui lui déjà est allé chercher le guéridou. Donc tu peux, en allant le voir, peut-être lui demander des conseils. Donc elle dit, bon, là ça va, c'est pas trop loin, je vais pouvoir y aller. Et puis, de fil en aiguille, elle va passer de ce personnage-là qui va l'accompagner, et ensuite vers un autre personnage. Je vous dévoile pas tous les personnages, parce que c'est plutôt intéressant de les découvrir, parce qu'ils ont chacun leur univers et leur façon de se comporter. Et puis, à chaque fois, elle a l'impression d'aller d'étape en étape pour arriver à la finalité. Alors que la finalité, bon, je spoil un petit peu parce que du coup c'est vraiment pour enfants. La finalité fait que, en gros, faire le grand voyage d'un coup, c'était impossible pour elle. Mais en faisant des étapes, en passant de personnage en personnage qui va venir l'aider pour sa quête, bah, pour elle, ça lui paraît tout à fait faisable. Et donc c'est tout ce que l'on veut enseigner dans cet album. Ou peut-être en faisant des parties par partie, plutôt que tout d'un coup, où ça paraît insurmontable lorsqu'on a une tâche à faire, peut-être que la séparer et faire des petites parties à chaque fois pour pouvoir arriver au bout, ce sera peut-être plus facile. Et en tout cas, mentalement, on aura l'impression d'avancer davantage. Donc c'est pour ça que La Balade Magique de Baume Rire est vraiment faite. C'est pour cette chose-là, pour que les enfants essaient de comprendre ça, évidemment. C'est superbement bien illustré. C'est des couleurs directes de Anne Montel qui sont magnifiques. Les personnages sont super mignons, voire un petit peu inquiétants pour certains, s'ils font un peu peur. Mais en tout cas, c'est un très 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 bel album, superbement bien relié en plus. Glénat a vraiment fait un effort sur le côté technique. Vraiment, c'est un bel album que je vous conseille grandement pour les plus jeunes, évidemment. Mais en tout cas, c'est un vrai petit récit d'aventure. Il y a de l'humour. Voilà, c'est vraiment avec une belle petite morale. Donc, c'est La Balade Magique de Baume Rire aux éditions Glénat Jeunesse. C'est vraiment un sublime album. Et pour finir, un coup de cœur, encore une fois. Ça s'appelle Golem Nani. C'est de Zimra et c'est un one-shot qui est sorti aux éditions Dracou, donc chez, évidemment, diffusé par Bambou. Golem Nani, c'est, au départ, je me disais, bon, alors vu le dessin très cartoon qu'a utilisé Zimra dans cet album, je me dis, voilà, c'est vraiment, on va rigoler tout le temps, c'est vraiment de l'humour pur. Oui, il y a de l'humour. Il y a vraiment un très très beau, des très très belles choses qui se passent, en particulier le poulet, il est très drôle, et ainsi de suite. Voilà, poule exactement. Mais là, il y a aussi, c'est un drame, tout simplement. Il y a aussi un drame. On va suivre Lita, qui est une petite fille qui vit avec ses deux mamans. Et à un moment donné, ces mamans vont partir. Elles sont magiciennes, mais magiciennes de la terre. En fin de compte, elles arrivent à modeler la terre, la glaise et ainsi de suite, pour pouvoir pouvoir donner des sorts, faire des sorts. Donc elles font des objets en glaise et ensuite ça devient des objets magiques. Et donc elles s'entraînent, elles, petit à petit, à faire ça. Un jour, ses parents, donc du coup, ces deux mamans vont partir on ne sait pas trop, mais en tout cas, elles doivent aller assez loin pour pouvoir, pendant une semaine, pour pouvoir vendre leurs objets et ainsi de suite. Et là, elles ne reviendront pas pas du tout. Elles ne reviendront pas du tout parce qu'elles sont décédées. C'est la triste, le couperet qui tombe sur la vie de Lita. C'est très difficile pour elle et pour nous aussi, parce que du coup, on avait pris tout de suite sympathie pour ces personnages et on ne les reverra pas. Mais pour l'aider, les mamans de Lita lui avaient en tout cas présenté un golem. Un golem, c'est une sorte de gros monstre de terre, de glaise, à qui on donne vie et qui va donc obéir à son propriétaire. Et le golem, lui, va donc aider Lita, avec sa poule aussi, qui va aussi beaucoup l'aider. Et du coup, Lita va devoir réussir à s'en sortir. Mais en fin de compte, le golem va petit à petit aussi avoir des sentiments. Normalement, il n'en a pas, mais on sent qu'il y a de l'amitié, de l'amour qui se crée entre eux pour pouvoir vraiment lutter contre toute cette tristesse qui émane de la vie de Lita et toute la difficulté qu'elle va pouvoir rencontrer. C'est un récit absolument magnifique. C'est doux, c'est tendre, c'est émouvant, c'est drôle. C'est superbement bien dessiné. Alors justement, le côté cartoon de Zimra est fait merveille. Et pourtant, comme je vous dis, il y a des sentiments de tristesse et ainsi de suite que l'on ressent, de beaucoup d'émotions qui sont exacerbées malgré dans le récit, mais le dessin ne les gâche pas. Donc c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié dans cet album. C'est que vraiment, on arrive à avoir toutes les émotions, malgré un dessin très rigolo, très drôle, toujours matiné un peu de manga évidemment, parce que Rachel Zimra est quand même spécialiste, elle a travaillé pour Mythix, pour les Mythix avec Philippe Ogaki et il a regretté Patricia Lifung, mais aussi sur l'envers des contes, où elle avait déjà son trait un peu style manga, mais là, elle l'arrondit encore un petit peu, j'ai l'impression, pour le rendre un petit peu plus cartoonesque encore. Et je le trouve mais absolument magnifique. Cet album est magique. Justement, comme un golem, bah, il prend vie, tout simplement. Et c'est très touchant. C'est vraiment très touchant. Un très beau récit sur le deuil, l'amitié, évidemment, qui va se créer entre eux. Quand je vous dis, voilà, la relation entre le golem et Lita va vraiment évoluer. Et puis, en plus, il y a des poules. Enfin, une poule en particulier. C'est elle un petit peu la caution humoristique de tout l'album. Mais du coup, ça fait du bien aussi qu'elle soit là. Parce que s'il n'y avait pas cette poule, peut-être que voilà, tout serait encore beaucoup plus sombre. Mais en tout cas, là, il y a tous un côté humoristique qui rentre aussi en jeu. C'est absolument magnifique. Ça s'appelle Golem Nani. C'est la grosse recommandation de Bulle en Stock dans cette émission. C'est chez Dracou. C'est de Rachel Zimra. Merci à elle pour ce magnifique album, Rachel Zimra, que vous allez pouvoir retrouver à Chelambule, le troisième épisode de Chelambule qui aura lieu les 11 et 12 octobre à Chel. Du coup, elle sera là que le 12 par contre. Mais par contre, vous pourrez venir vous faire dédicacer, rencontrer Rachel pour lui parler de Golem Nani. J'espère que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, j'ai adoré. C'est vraiment un album coup de cœur. Golem Nani aux éditions Dracou. Par Rachel Zimra. Merci à elle pour ce magnifique album. Et voilà, donc c'est fini pour Bulle en Stock Express. Merci, à très vite pour soit de la manga, du BD ou du jeu de société. Allez, ciao.